Les femmes noires que vous retrouverez la semaine prochaine aussi dans Remue Ménage, Onde Femmes Radio Zone 93.8, en compagnie de Marie-Noëlle Anderson, avec qui nous essaierons de faire un premier bilan des élections en Afrique du Sud. Ces élections, ce premier vote pour toute la population noire sud-africaine qui vote elle aussi après 400 ans d'esclavage. Et puis maintenant, tout de suite, une autre femme noire qui vient du Sénégal. Elle, c'est une danseuse et c'est Germaine Akoni. Germaine Akoni, que vous pouvez encore voir ce soir à la Salle Patino, donc ce soir mercredi 27 avril à 20h30, Salle Patino à Genève, ça vaut la peine, n'hésitez pas, présentez-vous tout de suite à 20h15 et vous aurez beaucoup de plaisir, et ceci d'autant plus lorsque vous aurez entendu comment Germaine Akoni parle de son travail. Je l'ai rencontrée ce matin. Premier spectacle que vous avez donné à la Salle Patino à Genève. Et ce qui m'a beaucoup frappée dans la façon dont vous êtes présentée à nous, accompagnée d'un homme qui joue au tambour, je ne sais pas comment ça s'appelle spécifiquement chez vous, c'est la force vraiment du corps, du rythme, dans des danses que vous nous présentez. Et puis derrière ces mouvements, derrière ces rythmes, des images qu'on reconnaît, le feu, l'eau, oui, dont on suppose qu'ils sont à l'origine des rites, très certainement, de l'Afrique d'où vous venez, du Sénégal où vous êtes né. Et donc, on identifie bien sûr votre travail à ce qu'on pourrait appeler de la danse africaine, mais je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous y voyez plutôt un mélange à la fois de vos origines africaines, de la tradition, et peut-être un mélange avec une influence occidentale, parce que vous avez étudié la danse à Paris, à New York.
Oui, c'est cela. Personnellement, je dois dire que je suis un mélange, un métis, une métisse culturelle, parce que, comme je dis, je suis africaine. On appelle ma danse danse africaine, mais je suis d'abord danseuse avant d'être africaine. Donc, j'ai une influence parce que j'ai travaillé en Europe, et aussi par curiosité j'ai été voir aux États-Unis ce qui s'y passe pour pouvoir voir ce qui se ressemble, ce qui nous rassemble. Je n'aime pas trop diviser, et je pense que rassembler, et je dis toujours qu'on a deux pieds, un cul, un buste, deux bras, une tête, que nos danses ne peuvent pas être si différentes. Elles sont influencées par l'environnement, par le choix de notre vie, par ce que nous faisons. Donc, ayant comparé la danse américaine, la danse africaine, la danse européenne, j'ai fait un choix de rester dans la technique africaine et de donner à sa place, la danse africaine, la place qui lui revient de droit. Parce que souvent, même les Africains ne donnent pas beaucoup d'importance à leur danse ou à leur art. Et je pense que c'est important de dire que la danse africaine est un choix, est une technique. Parce que souvent, on dit que la danse est dans le sang, ou le rythme est dans le sang des Africains, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire, bien sûr, nous vivons, nous ne sommes pas coupés de nos rythmes comme en Europe, mais ça commence parce que les gens qui habitent les villes se détachent, surtout les hommes, se détachent de la danse, et je trouve ça très très dommage. Et je pense que la danse, c'est la vie. Et la spécificité de la danse africaine, c'est de rester en contact avec le cosmos. C'est un contact, un dialogue permanent avec le cosmos. Et je trouve que dans les temps actuels, c'est très important d'avoir ce contact et d'être soi.
Mais ça veut dire quoi, Germaine Akoni, être en contact avec le cosmos?
Mais parce que être en contact avec le cosmos, c'est être d'abord, de prendre conscience de la nature dont nous sommes en principe garants. Nous sommes les locataires de la terre et nous devons préserver cette terre. Et si nous n'avons pas de respect, parce que dans la tradition, la religion, c'est l'animisme. Et ça existait aussi dans les autres pays. C'est le culte de la nature. Mais au-delà de tout ça, il y a un être supérieur, un créateur. Et en rendant hommage à la nature, par là, nous rendons hommage à ce créateur qui nous permet de vivre dans un environnement extraordinaire. Donc, être en contact avec la nature, avec le cosmos, c'est être, pour moi, en contact permanent avec Dieu. Et la danse, c'est le premier des arts. Parce que les enfants, souvent les parents me disent « Oh, mon enfant extraordinaire, il danse, je ne veux pas le décevoir. » Mais tous les enfants dansent, qu'ils soient noirs, blancs, tous les enfants dansent et qu'ils écoutent de la musique, ils sont en rythme. Et c'est quelque chose de naturel qu'il faut conserver. Mais il ne faut pas forcer l'enfant à choisir quoi. On a en soi des dons qu'il faut plus ou moins développer. Et voilà, je pense que la danse, c'est quelque chose qui est en soi, que l'on peut, et le rythme, mais qu'il faut redécouvrir et travailler. Hein, les Africains aussi le travail, parce que quand on est dans les villages, le soir, pour redonner l'énergie après le travail, il y a la danse en cercle auprès des avec les batteurs et au clair de lune. Et je pense qu'il faut conserver ça et donner cet espace. Et c'est pour ça que cet espace n'existant plus, les gens vont dans les boîtes de nuit et essayent de se défouler. Mais je trouve les boîtes de nuit tristes, moi.
Mais Germaine Aconi, malgré tout, il y a, enfin, moi qui suis de tradition occidentale et blanche, je vois bien quand même que nos corps ne fonctionnent quand même pas vraiment de la même façon, dans le sens où en Occident, on utilise beaucoup moins l'expression du corps que ne l'utilisent les Africains, même si vous dites que c'est pas inné, c'est pas dans le sang. Il n'empêche que quand je vois la façon dont souvent les Noirs font bouger leur corps millimètre par millimètre, et comme vous faites bouger votre corps sur la scène, c'est pour nous extrêmement difficile. Alors, comment vous arrivez à faire intégrer à la fois cette force du mouvement du corps que vous trouvez peut-être justement dans l'utilisation de ce rapport avec la nature qui est beaucoup plus vivant en Afrique que chez nous, parce que même les danses folkloriques chez nous, c'est quand même pas ça, même ce qui était à l'origine de l'expression.
Oui, mais justement, je dis, on est influencé par l'environnement. Hein? Et en Afrique aussi, les danses sont influencées par les danses de forêt sont différentes des danses du Sahel et des danses de la mer ou des danses de la montagne. Et donc, et nous sommes encore en contact beaucoup en Afrique. Et chaque peuple, déjà la façon de marcher, c'est différent. Hein? Alors, chaque peuple a sa façon de marcher. Et donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre les hindous, les africains, les européens, les américains, etc., etc. Et donc, c'est l'influence de l'environnement. Et c'est pour cela que les corps sont différents et on a toujours, comme je dis, dans certains pays africains, il y a d'autres qui ont plus, par exemple, si je parle du Sénégal, on a plus l'air de félin, très grand, très, très, très ondulé. Mais par exemple, les danses Wolof, il n'y a pas d'ondulation de buste. Hein, c'est surtout les jambes qui volent et qui à peine touchent le sol et les bras qui sont, comme j'ai dansé à la dernière partie. Donc, par exemple, dans les pays en Casamance où c'est les danses de forêt, et ça imite plutôt les oiseaux où le sol frappe très rapidement le sol et les bras qui virevoltent. Donc, comme je dis, c'est l'environnement et la façon dont on vit et la façon dont on a évolué dans le temps.
Mais alors, comment vous avez supporté de vivre dans les corps coincés des Occidentaux ? Parce que, donc, vous avez appris à danser à Paris, à New York. Aujourd'hui, ce que vous nous montrez serait censé être quand même la base profonde de l'Afrique, mais aussi un mélange avec ce que vous avez découvert ici en Europe. Comment vous arrivez à intégrer cela dans votre pratique de la danse ?
Ben, pour moi, c'est toujours très simple. Comme je dis, la nourriture. Nous mangeons chinois. nous mangeons africain, nous mangeons indien, nous mangeons toutes sortes de choses, et cela s'intègre dans notre sang, mais nous restons nous-mêmes. Et je pense que le métissage est très important. On essaie de prendre ce que nous sentons de mieux chez l'autre pour l'intégrer à soi et garder ses racines. Et c'est important de garder ses racines. Il y a beaucoup de gens, que ce soit des Africains, des Européens, qui perdent leurs racines en vivant au contact de l'autre. Mais pour moi, c'est cette force que j'ai en moi que je dis, et c'est drôle, plus je vis en Europe, plus je m'enracine en Afrique. Et Je tiens à rester moi-même et je retourne chaque année en Afrique pour ne pas perdre mon épice. Et je dis, vive la différence. Si on était tous pareils, il n'y aurait pas une autre attirance et tout. Et je pense que la différence est importante et de savoir que nous avons une base commune qui est notre philosophie. Et par exemple, l'eau. L'eau, c'est un symbole universel qui a existé dans tous les peuples. Et quand je lis l'histoire aussi des peuples que je connais, le déluge a une grande importance. Il y a eu des déluges, quand je lis des contes, il y a eu des déluges, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique. Donc, il y a des symboles universels. Et je crois que nous nous retrouvons grâce, parce que la nature est une, le ciel c'est le ciel, la terre c'est la terre, les montagnes ce sont les montagnes, ça dépend de l'endroit où l'on vit.
Vous avez cherché aussi, Germaine Acogny, à faire le chemin inverse, c'est-à-dire aller en Afrique avec aussi des traditions occidentales, parce que oui. Vous avez ouvert l'école de la Moudra de Béjar en Afrique, au Sénégal. Donc, il y a eu cette tentative de faire aussi l'apport inverse. Oui. Comment ça s'est passé ?
Ben, au Sénégal, quand j'ai commencé mon école de danse en 68, au départ, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Ils disaient que c'était la danse classique, parce que c'était, ils reconnaissaient des choses du pays, mais ils trouvaient que c'était une autre danse. Et les femmes, les vieilles femmes, les hommes traditionnels me disaient « Oh, tu as une danse extraordinaire qui nous touche, qui nous plaît. » Et c'était important que cela touche les Africains ou les Sénégalais. Donc, et pour moi, si ça plaît au Sénégal et en Afrique, si les Européens ne l'acceptent pas, c'est pas mon problème. Il faut qu'ils essayent de. Je suis beaucoup plus heureuse si les Africains l'acceptent, et c'est moi. Et alors, je l'importe en France ou en Europe, parce que eux aussi, ils viennent chez nous. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que le président Senghor a remarqué les recherches que je faisais en danse, parce qu'il voulait faire du Sénégal la Grèce de l'Afrique, c'est-à-dire que tous les arts se retrouvent. Et il a beaucoup encouragé la peinture, la sculpture, la littérature et tout. Et il restait la danse. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans l'objectif de ces projets. Donc, il a essayé, il a décidé de me mettre en contact avec Maurice Béjar, qui a son arrière-grand-mère, qui est Fatou Diagne, et qui est noire. Donc, il a un quart de sang sénégalais, il en est très fier. Donc, ça a été une rencontre extraordinaire. Et il a toujours voulu, il dit que, comme dans la préface du livre, que la danse africaine, quand il a eu le message de la danse, c'était vrai. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. J'étais à Nice pour un stage, et un garçon qui faisait beaucoup de sport n'a jamais osé danser. Il m'a dit, est-ce que je peux essayer ? Parce que j'ai l'impression que c'est l'essentiel. Et je pense qu'il y a des danses comme pour les aborigènes et d'autres pays, qui sont d'autres continents, qui sont restés très proches de la terre, de la nature. Eh bien, c'est l'essentiel qui est là. Ce n'est pas sophistiqué. Donc, en partant de là, Maurice Béjar et le président Senghor se sont rencontrés et ont créé Moudra Afrique. Ça a été un événement que les gens n'ont pas tout de suite compris, mais petit à petit, il faut éduquer les gens. Et nous avons fait des spectacles. Ils disaient, mais c'est encore les Blancs qui viennent nous coloniser. Et nous avons fait des spectacles dans des stades de lutte, c'est-à-dire de lutte africaine, et très populaire. Et quand les gens ont vu, ils ont dit, mais où est la danse classique, où est la danse moderne? Tout était pas une mixture comme ça, mais nous donnons des cours de danse classique, bien sûr, avec le piano, mais quelquefois avec le tam-tam, pour intégrer tout cela. Et je trouve que quand on arrive à cette rencontre, parce que je pense que quand on connaît la culture de l'autre, c'est là que le racisme disparaît, d'accepter la culture de l'autre et d'essayer de comprendre. Et à ce moment-là, les différences disparaissent, tout en gardant, quand on connaît l'autre par sa culture, c'est plus facile de l'accepter.
Et cette démarche a réellement été acceptée, finalement? Vous disiez que c'était difficile au début.
C'est-à-dire, ça n'a pas tellement abouti, puisque l'école a fermé. Le peuple a compris, mais c'était trop tard. Cette école a été subventionnée par le gouvernement sénégalais et devait être subventionnée aussi par les pays qui envoyaient leurs élèves. Et il y a seulement le Congo qui a participé. Et après, les autres n'ont pas cotisé et c'était trop lourd pour le Sénégal. Et puis, ce n'était pas une priorité. L'école s'est fermée. Et maintenant que moi, je vis en Europe avec Aaron Ndiaye, ce merveilleux percussionniste qui est le fils de Doudou Ndiaye Rose, un génie du rythme. Et nous sommes retournés quelques années après, et nous avons fait une école dans un village où nous emmenons des gens de différentes nationalités pour découvrir la danse africaine dans son contexte socioculturel, dans son contexte naturel dans les villages, et non seulement par la danse, apprendre à vivre. Ils vivaient dans les cases avec les habitants, ils mangeaient la nourriture du pays et dansaient dans la nature. Donc c'était aussi remettre à jour aux Africains l'importance de leur culture, que d'autres viennent, des gens qui ont piétiné leur culture en disant que c'était du fétichisme et qui mettait par terre parce que tous les peuples ont été colonisés. Et le colonisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il veut être le plus fort, il impose sa culture. Et maintenant que les gens de village voyaient d'autres pays, des Blancs, venir apprendre leur danse, cela leur donnait une certaine sécurité, une certaine fierté. Donc je pense qu'au départ, ils ont pensé que Moudra Afrique, parce que ça reste dans leur tête, les Européens sont venus apporter quelque chose, mais maintenant c'est l'inverse, ils viennent chercher. Et il y a un grand regret, parce qu'il n'y a plus de centre de formation de ce haut niveau en Afrique, et c'est là le problème. Et bon, je pense qu'ils ont compris, c'est peut-être toujours il y a des précurseurs, et ça fait réfléchir les gens, et je pense que dans les années à venir, les choses se passeront mieux.
Germaine Aconi, vous parlez de ces gens qui sont venus avec vous, vous les avez emmenés en Afrique. Il y a, je crois, réellement un immense engouement pour la danse africaine ou pour la culture africaine ici en Occident. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elle est, entre guillemets, sincère ou est-ce que c'est pour se bouger? Enfin, moi, je suis quand même frappée de voir le nombre de gens qui suivent des stages. Vous avez aussi été confrontée à ça parce que vous êtes venue, par exemple, en Suisse, à Neuchâtel. Oui. Vous avez ouvert des stages. Oui. C'est pas seulement le spectacle où les gens vous regardent, mais ils participent à des stages.
Je pense que c'est pas un engouement passager, parce que ça fait longtemps, on disait c'est la mode et tout ça. Mais je pense qu'actuellement, les gens ont besoin d'aller ailleurs pour chercher quelque chose. Et ils viennent en Afrique. Et je leur dis, vous savez, vous prenez ici, en Afrique, quelque chose. Mais cela existe chez vous. Si vous réfléchissez, cela existe chez vous. Et c'est bien, je pense, ils viennent, ils sont face à eux-mêmes, et souvent, quand ils retournent chez eux, il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui ont dit, eh bien, ma vie a changé. Ou ils décident, ils étaient mal avec leur ami ou leur mari, ils décident de divorcer, ils décident de changer de travail, ils décident de... Et le corps est quelque chose de très fort. Et ils disent, oui, nous retrouvons quelque chose chez nous. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont en eux, avec cette machinisation de tout. Ils ont besoin de retrouver une certaine force, une certaine sincérité pour vivre leur vie actuelle. Et je pense que c'est quelque chose, ils vont le chercher aussi en Inde, ils vont le chercher en Afrique, ils vont le chercher dans des pays où il y a la nature encore. Et je pense que c'est cela qui est en eux. Et c'est important.
Vous pensez que si on découvre le fonctionnement de son corps, ça nous aide à penser plus clair?
Ah oui, oui, oui. Et je dis bien, vous savez, quand dans un couple ça ne marche pas, c'est soit l'argent, le pouvoir ou le sexe. Donc souvent je dis, quand je donne les leçons, c'est aussi une leçon de vie. Et je dis, mais pour moi, le pubis ce sont les étoiles, le cul c'est la lune et la poitrine c'est le soleil que j'ai senti, que j'ai senti dans la nature. Et je leur dis, vous savez, si vous bloquez votre cul, la tête n'est pas claire, hein? Et on dit le quotient intellectuel en Europe, on pense que c'est la tête, mais je trouve que le cul est intelligent. Je leur dis, bougez votre lune, elle est intelligente. Le pied, il y a une intelligence dans le pied, il y a une intelligence dans le corps. Et je pense qu'il faut ne pas séparer le corps de l'esprit. Et ça a été le danger avec l'Église catholique et aussi les musulmans. Qui ont ravagé l'Afrique, qui disaient il faut plus danser, il faut plus ceci et cela. Et si les Européens ont oublié le rythme et la danse, c'est ça qui cause des problèmes. Il faut enlever cette force. Quelquefois, il faut sublimer le corps. Hein. Quand on arrive, je dis au départ, c'est très animal quand on danse, mais après, c'est du bas. Il faut remonter vers le haut et c'est une sublimation parce que avec cette sublimation, on arrive à faire quelque chose de social et à sublimer tout ce qui est. C'est bien dans les banlieues de faire danser les jeunes. Hein. C'est une sublimation et leur apporter la danse, ça enlève tous les déchets, ça lave le corps et je trouve que c'est très important.
D'ailleurs, quand on vous regarde en spectacle, comme hier soir à la salle Patineau, on est très frustré d'être assis sur notre chaise parce qu'on ne peut pas danser. Et vous, comment vous sentez-vous? Parce que la danse en Afrique, je ne crois pas que c'est un spectacle. Enfin, c'est plutôt des fêtes traditionnelles, c'est des rites initiatiques. Et là, tout à coup, vous faites le choix de montrer cette danse à un public en étant sur une scène avec des gens assis qui ne peuvent pas bouger. Comment vous le ressentez? Pourquoi vous avez fait ce choix-là?
Bon. On dit qu'en Afrique, bien sûr, il y a les rites, il y a des gens aussi qui sont initiés, mais il y a les fêtes populaires, la danse populaire où les gens dansent. Ils sont en cercle, mais il y a les meilleurs qui viennent au centre, et c'est les spectateurs. Ce sont les spectateurs, et qui regardent, qui participent, et on fait des concours de danse. On dit le meilleur danseur, et on donne le nom du pas à ce danseur à un pas, qui a inventé un pas. Et aussi, les batteurs aussi. Mais c'est un spectacle aussi. Ce n'est pas un spectacle au sens européen, mais c'est un spectacle, parce que tout le monde danse, mais il y a des gens qui sont plus doués, qui ont une technique extraordinaire. Et donc, c'est un spectacle. Bien. Bien sûr, on dit que la danse doit être prise dans son contexte socioculturel. On l'amène pas sur scène. Mais les choses évoluent. Il y a l'Afrique des buildings. Il faut bien que, si ça n'évolue pas, cela va mourir. Et donc, il y a la danse traditionnelle, avec tout le respect que je le dois, mais ils ont transposé cette danse en Europe, avec Keita Fodeba qui a commencé, et les ballets nationaux. Et les Européens pensent que c'est le stéréotype de la danse africaine, qui n'est plus socioculturel. On l'a amené sur scène, on l'a développé d'une autre façon. Bien. Maintenant, avec l'évolution, petit à petit, pour faire connaître ces danses, même en Afrique, les gens viennent au spectacle maintenant parce que c'est l'évolution actuelle. Et donc, d'abord, nous avons fait ce solo avec mon batteur Aaron Ndiaye, puis nous l'avons montré à Dakar. On avait peur, parce qu'en Afrique, le spectacle, c'est plusieurs personnes aussi qui dansent. Et ils étaient étonnés que Aaron Ndiaye et moi, nous étions deux à captiver le public. Les traditionnels sont venus, ils ont dit, c'est extraordinaire, vous êtes arrivés à nous captiver. On attendait qu'il y ait d'autres batteurs, d'autres danseurs qui arrivent. Et pendant 1h10, nous avons été captivés. Donc, c'était une performance extraordinaire qui leur a plu. Alors, je pense que c'est un choix délibéré pour montrer ce que c'est que la danse. Parce que contemporain, la danse africaine, elle est contemporaine dans le sens que c'est une danse d'aujourd'hui. Les contemporains en Europe, ils ont coupé de la tradition classique parce qu'ils en avaient marre. C'est une danse qui se veut partir d'elle-même. Mais je pense que c'est quelque chose qui est pour le spectacle. Il y a quand même, il faut garder cette technique de Graham, de Limon et d'autres, je pense, pour la formation. Et donc, nous, en tant qu'Africains, cette danse contemporaine, nous voulons garder toujours cette base avec le symbolisme de contact avec la terre, le ciel et le cosmos. Bon, peut-être dans quelques années, les jeunes, les futurs qui vont venir, voudront couper avec ça, mais ça, c'est leur problème. Pour l'instant, nous gardons cette racine parce que le présent ne peut exister sans le passé et l'avenir ne peut exister sans le présent. Mais nous pensons que c'est cette nouvelle danse que nous pouvons donner à la future génération.
Effectivement, on a l'impression qu'il y a deux présences très très fortes sur scène, vous et lui. Il y a aussi quelque chose de très frappant. On se demande comment vous vous entendez, si je puis dire. Bon, le son est très fort, c'est pas là la question, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une harmonie incroyable entre le rythme des tambours et votre corps. C'est qui suit qui?
Eh ben, vous savez, en Afrique, normalement, le batteur suit le danseur. On dit souvent, quand il y a un bon batteur, c'est qu'il y a une bonne danseuse ou un bon danseur. Mais ça se mêle. Ça se mêle. Quelquefois, c'est le batteur qui suit, et quelquefois, c'est la danseuse ou le danseur qui suit. Donc, c'est tellement mêlé. En principe, c'est le batteur qui suit le danseur. Mais c'est tellement mêlé et il n'y a pas de frontière.
Parce qu'il y a des moments où vous faites des ruptures de rythme tellement importantes, dans le sens où tout à coup ça va très très vite, puis tout à coup, tac, ça s'arrête d'un seul coup, et c'est un tout autre mouvement qui part derrière. Comment c'est des signaux qu'on suit sur votre corps, où vous suivez, vous, le tambour, tout à coup?
Je suis le tambour, où lui, il me suit, et en plus, vous savez, ici, quelquefois, je compte, mais je dis toujours, quand je donne les coups, qu'il ne faut pas compter. Numériquement, il faut sentir le rythme. Et ce serait très difficile quelquefois pour les Européens, mais je leur dis, en jazz, on dit 1, 2, 3, 4, ta, 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 et on compte, et la tête est bourrée. Pour moi, je suis incapable. Mais il faut sentir le rythme et attendre le moment. Mais je leur dis, voilà, vous essayez, je ne peux pas vous l'expliquer, je n'ai pas envie de décomposer. Il y a des choses qu'il faut croire et faire confiance en son corps. Et laisser, c'est une bouteille vide que vous ramenez, et laisser aller. Ce qui ne veut pas dire que c'est n'importe quoi ou ce n'est pas une technique, c'est même très difficile. C'est plus facile de compter. Mais là, et surtout, quelquefois, il y a différents rythmes qu'il faut appréhender. Et pour accompagner des cours, Aaron Njai, c'est quelqu'un d'extraordinaire, parce que tout le monde ne peut pas accompagner des cours. Hein, et comme un bon pianiste ne peut pas accompagner les cours de danse classique, c'est un métier. Donc lui aussi, il a appris et il a une mémoire extraordinaire. Il connaît les enchaînements et aide les danseurs à suivre. Donc c'est, on apprend parce que c'est de sentir le moment. Il faut partir et on arrive à le faire quand je fais des stages. Ben, j'arrive à le faire même avec mes élèves européens.
Les femmes noires, c'était aujourd'hui Toni Morrison qui nous a été présentée par Evelyne Merlard et la librairie des femmes, l'inédite à Genève. Et puis tout de suite, là maintenant, c'était Germaine Aconi, danseuse sénégalaise, que vous pouvez encore voir ce soir, mercredi 27 avril, à 20h30 à la salle Patineau. Elle sera à Neuchâtel jeudi soir, si jamais vous l'avez manqué ce soir. Et puis, je vous propose d'écouter la semaine prochaine, après l'histoire d'autres femmes noires, un premier bilan après les élections sud-africaines qui ont lieu en ce moment même. Une discussion avec Marie-Noëlle Andersen, une femme qui est née en Afrique du Sud, blanche, qui a eu l'occasion d'y retourner plusieurs fois, qui a fait un dernier voyage en novembre 1993 et qui a envie de nous parler, au travers du regard des femmes qu'elle a rencontrées à ce moment-là, comment les femmes envisagent leur rôle dans la nouvelle Afrique du Sud. Eh bien, après cette rencontre avec Marie-Noëlle Andersen, je vous propose d'écouter la fin de l'interview ou de l'entretien que j'ai eu avec Germaine Aconi, où elle raconte comment, dans sa vie de femme, elle a dû prendre parfois des décisions et faire des choix assez difficile pour une femme en Afrique qui, comme on le sait bien, a plein de rôles dans la vie familiale, mais pas beaucoup dans la vie publique. Et elle nous racontera ça la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, hélas, le temps nous est trop court et il faut renoncer à la fin de cette part de vie de Germaine Aconi, mais je crois que vous la découvrirez avec plaisir la semaine prochaine. Voilà, Remue Ménage pour aujourd'hui, c'est terminé. La lune pleine, et elle est pleine, monte dans vos oreilles dans quelques instants.